Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Il y a une double raison de se réjouir aujourd'hui en écoutant Popopop. Tout d'abord parce que c'est simplement réjouissant d'écouter Popopop, est-ce bien nécessaire de le rappeler, mais aussi parce que nous allons nous entretenir avec une romancière qui va vous faire passer quelques nuits blanches comme elle vient de nous en faire passer à nous. Elle s'appelle Paula Hawkins et si vous avez craqué pour La fille du train et Au fond de l'eau, alors attendez-vous à fondre avec le petit dernier, Celle qui brûle. Après le fer, comme le chemin du même nom, et l'eau, place au feu donc, avec ce thriller psychologique de très haute volée. L'autre raison de se réjouir, c'est que Paula Hawkins nous emmène faire un petit tour, certes légèrement anxiogène, dans ce Londres que nous aimons tant, et où, pour d'obscures raisons sanitaires, nous n'avons plus été autorisés à remettre les pieds depuis une éternité. Ah, ce que ça nous manque, notre bon vieux Londres, surtout en ces premiers jours d'automne, et quelle tristesse de se dire qu'il nous faut maintenant des visas et toutes les tracasseries afférentes pour simplement aller boire une pinte de l'autre côté de la Manche. Heureusement, il y a Paul McCartney, les Arctic Monkeys, Ricky Gervais, entre autres, pour nous consoler et pour nous remonter le moral. Et aujourd'hui, c'est Paula Hawkins qui s'y colle et nos petits cœurs battent de reconnaissance. Pop, 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 c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Paune.
Et bonjour Paula Hawkins.
Bonjour Antoine.
Bonjour. Oh, mais vous parlez très très bien français.
Non, pas vraiment, c'était un tout petit peu.
Oui, non, non, ce bonjour était presque parfait. Paula, je le disais, 22 millions de lecteurs pour votre best-seller La fille du train, mais une émission. Je vous remercie donc infiniment d'avoir choisi Pop, Pop, Pop.
Thank you for having me.
La France compte un peu plus de 67 millions d'habitants et même si France Inter est la radio la plus écoutée du pays, j'ai peur que nous ayons moins d'auditeurs que vous de lecteurs, ma chère Paula Hawkins. Ça ne vous dérange pas, j'espère?
I don't mind at all.
Non, ça ne me dérange pas.
Avec nous également dans Pop, 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 Carmen Kassovitz et Théo Fernandez, les comédiens de la série Stalk. Ils viendront nous présenter tout à l'heure la saison 2 de cette série à succès. Mais d'abord, Paula Hawkins, nous allons parler de votre nouveau roman qui vient de sortir chez Sonatine et qui a pour titre donc Celle qui brûle. Nous allons en parler dans un instant, juste après une collab toute fraîche entre Bruce Springsteen et son vieux copain John Mellencamp. Résultat, ce morceau, Wasted Days.
Summers still remain. How many days are lost in vain? Who's counting now these last remaining years? How many minutes do we have here? Wasted days. Wasted days. We watch our are worth the time, and who on earth is worth our time? Is there a heart here that I can call mine? Wasted days. Wasted days. We watch our lives just fade away.
down the drain. How many moments has he lost today? And who among us could ever see it clear? The end is come, it's almost here. Wasted days, wasted days. We watch our lives just fade away to more wasted days. Wasted days, wasted days. We watch our lives.
Bruce Springsteen, John Mellencamp, c'était le morceau Wasted Days. Paula, ici nous parlons beaucoup de musique, et la musique avec laquelle vous, vous écrivez, c'est celle-ci. Bah oui, rien, le silence absolu. C'est vrai, ça vous écrivez dans le silence complet ?
I would prefer to write in total silence. That's how
I concentrate. Oui, je préfère parce que ça me permet de mieux me concentrer. Mon compagnon écoute de la musique en permanence, donc il y a une petite guerre qu'on se mène là. Mais généralement, moi, je ferme la porte de mon bureau et j'écris en silence. De temps en temps, un peu de classique. Mais j'aime pas quand il y a des paroles parce que ça fait des interférences dans ma tête.
Parfois, un peu de musique classique, dites-vous quand même, écoutez très occasionnellement. En revanche, votre pop culture est dans votre poche, si je puis dire, parce que dès que vous sortez faire un jogging, vous écoutez ça. Kylie Minogue, époque 1980, dites-vous. Alors, à quoi ressembleraient vos livres, Paula Hawkins, si vous écoutiez du Kylie Minogue en écrivant, et à quoi ressembleraient vos joggings si vous couriez en silence ?
Je crois que je courrais pas très vite. Mon jogging serait un peu court. Et puis mes bouquins, eux, ils seraient peut-être un peu plus joyeux. Un peu plus joyeux. Mais bon, je crois pas que ça convienne à mon type d'écriture.
Bien. Voilà, restons dans cette pop culture, car La fille du train, votre best-seller, a très nettement quelque chose d'Hitchcockien.
Precinct 6, Sergeant Allgood.
Hello. Hello. Look, a man is assaulting a woman at 125 West 9th Street, second floor. At the rear. No, make it fast.
Your name?
L.B. Jeffries. Chelsea 25598.
Extrait de Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. C'est ce film qui vous a donné envie de regarder à travers la fenêtre des gens pour écrire La fille du train. Ces informations sont exactes?
It certainly was quite a big influence on me. I love that film.
Fenêtre sur cour, j'adore ce film, il a eu beaucoup d'influence sur moi. Et je partage ce plaisir de regarder à travers les fenêtres des gens, s'imaginer ce qui se passe dans leur foyer. Mais j'ai un peu tout changé. Ce qui m'a beaucoup inspiré, ce sont les transports publics que je prenais beaucoup à l'époque. Et il y a des trains qui passent juste entre les rues et on voit vraiment vivre les gens chez eux à travers leurs fenêtres. Et je me suis demandé, et si on était témoin d'une scène violente, qu'est-ce qui se passerait ? Mais à la fin, en fait, la fille du train, elle voit juste un baiser, mais elle s'imagine toute une tragédie derrière, à cause de ce qu'elle est, elle.
Et le succès de La fille du train vous a justement permis de ne plus avoir à utiliser ces transports en commun qui vous emmenaient à votre travail dans les villes. Mais qu'est-ce que ça a changé sinon fondamentalement pour vous, ce succès colossal ?
Ça a tout changé pour moi. Bon, d'abord, mon travail. Tout à coup, il y avait ce succès phénoménal. On m'invitait partout, dans des festivals littéraires, des prix littéraires comme juré. Oui, c'était vraiment incroyable. Et puis, avant de sortir mon livre, j'avais beaucoup de dettes, donc c'était un grand soulagement de pouvoir rembourser ces dettes. Je n'avais plus de difficultés financières. Mais l'essentiel, ça a été l'impact sur ma vie professionnelle. J'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres auteurs, d'autres écrivains. On a fait un film de mon livre. C'était extraordinaire.
C'est un succès qui a littéralement eu l'effet d'une bombe dans votre vie. Alors, on survit parfois à une bombe, mais quel genre d'effet en profondeur a eu sur vous cette déflagration?
Well, I think the weird thing is that it doesn't all come at once.
So ce qui est bizarre, ce qu'il y a de bizarre, c'est que c'est pas venu tout de suite en une fois. C'était pas une grosse explosion, mais plein de petites bombes comme ça, des petites choses qui s'ajoutent. Et j'ai compris petit à petit que ma vie ne serait plus jamais la même. Alors c'est passionnant, c'est excitant, mais parfois c'est un peu impressionnant. Vous avez parlé du nombre de mes lecteurs, 22 millions, ça fait beaucoup de pression. Et puis quand le film est sorti, La fille du train, j'ai eu un peu peur d'être harcelée par les médias. Bon, ça s'est pas passé vraiment. Mais en tout cas, c'est une seconde vie, on a l'impression de devenir un personnage public, où il faut faire plus attention à ce qu'on dit, etc. Donc bien sûr, ça s'accompagne de pression. Un tel succès.
Oui, car vous avez raison de le rappeler, le film a été adapté par Hollywood. Ça donnait ça.
Can you tell me where you were Friday night?
I was in the city and then I went to visit my husband.
You mean your ex-husband? It's my understanding that the woman who has gone missing was his nanny.
What happened that night in the tunnel? Tell me the truth.
Fille du train, le film, et en attendant une version, m'a-t-on dit, bollywoodienne de La fille du train. Ça vous a plu, Paula Hawkins?
Yeah, I mean, it's as I say, it's very different. It feels like almost
oui,
like a quite
j'ai
a different.
Bien so aimé. Like bon, c'est vrai que c'est très spécial. J'ai l'impression que ça a plus été inspiré par le livre plutôt que d'être une adaptation de La fille du train.
Et avec cette expérience qui est la vôtre maintenant dans le domaine du thriller psychologique, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir percé un secret dans la fabrication de ce genre très particulier?
Oh, I think it's a very different skill, obviously writing for film and creating
écrire un scénario. Ce n'est pas la même chose qu'écrire un roman. J'aimerais faire ça, mais je ne m'y suis encore jamais essayé. Le rythme, le découpage est très différent, la manière dont on crée les personnages, il faut que ce soit immédiat. Alors que dans un roman, dans 300 pages, on a tout l'espace qu'on veut pour développer l'intrigue et donner de la chair aux personnages. Il faut s'y prendre différemment dans un livre.
Non, mais Paula Hawkins, moi je parlais justement du roman. Est-ce que vous avez l'impression maintenant d'avoir, trouvé une sorte de Graal, d'une certaine manière?
Oh, I don't know that there's a recipe. I mean,
je ne sais pas s'il y a une recette, un secret de fabrication, une recette secrète. Mais on sait ce qu'attend le lecteur d'un thriller. Donc il faut lui offrir ça, des rebondissements, des retournements. Il faut qu'il y ait un mort, évidemment, à un moment ou l'autre. Mais pour moi, tout part des personnages. Je commence par les personnages et c'est comme ça que je construis mon livre. Je le bâtis sur les personnages. Donc au départ, je pense pas trop à l'intrigue, mais plutôt au type d'humain que je veux voir apparaître et les problèmes qu'ils vont rencontrer.
Bien, nous allons parler maintenant de ce nouveau roman, Celle qui brûle, dans la suite de Pop Pop Pop, en compagnie de Charline Roux, qui brûle elle-même d'impatience de nous rejoindre. Ce sera juste après votre morceau pour faire du jogging, Paula Hawkins, et chauffez-vous.
We'll be right back.
Kylie Minogue, I should be so lucky. Voilà ce qui fait jogger Paula Hawkins, notre invitée aujourd'hui. C'est avec un bandeau éponge jaune fluo et un legging vert pomme que Charline Roux vient de se joindre à nous. Bonjour Charline, vous semblez un peu essoufflée. Combien de kilomètres aujourd'hui ?
18 en faisant The Locomotion.
Ah, quand même, bravo. Charline, je vous présente Paula. Paula qui est à Londres.
Enchantée.
Hi.
Charline, allons donc à London. Parlez-nous, s'il vous plaît, de Celle qui brûle.
Laura, Myriam et Carla n'ont rien en commun, rien sauf un jeune homme assassiné sur une péniche, puisque Carla est sa tante, Myriam sa voisine qui a découvert le corps, et Laura est celle avec qui la victime a passé sa dernière nuit. Ça et le fait qu'elles ont toutes été, à un moment de leur vie, victimes d'une injustice. Paula Hawkins, on notera un léger glissement entre le titre original, Slow Fire Burning, et Celle qui brûle, au singulier. Qu'est-ce que vous pensez de votre titre français ?
Yeah, it's a great title.
J'aime beaucoup le titre en français. En anglais, c'est difficile parfois faire passer cette expression dans différentes langues. Mon éditeur a dû être un peu créatif, mais je trouve que Celle qui brûle, c'est parfait. Parce que ça parle de ces trois femmes, les personnages principaux que vous avez évoqués, et tout en elles ont un désir brûlant pour quelque chose que ce soit. Une vengeance ou autre. Donc je crois que ça fonctionne très bien.
Parce que le slow fire, le feu lent, c'est la façon dont le papier est fragilisé par l'acide qu'il contient. C'est de là qu'est venu le titre.
Yes, that's right. So slow fire, the
exactement.
Term in English is, it refers to the way that
ce terme, slow fire,
books,
le feu lent, c'est vrai que dans les livres très vieux, l'acide que contient le papier commence à grignoter les pages. Et c'était une métaphore de ce qui se passe à l'intérieur de mes personnages. Il y a quelque chose qui les bouffe, qui les ronge.
Mais on est d'accord qu'il n'a jamais été question d'appeler ce livre « The Boy on the Boat » après « The Girl on the Train
». No, I didn't. There's kind of a joke about that in the novel, but
non, je fais une petite blague là-dessus, mais non, ça ne m'a pas tenté.
Paula Hawkins, d'où vous vient ce goût pour les histoires sombres? Vous qui, dans un premier temps, vous étiez essayé à la rom-com, c'est plus excitant, c'est plus troublant à écrire ces histoires?
Yeah, I think. I was never really comfortable in the rom-com genre.
Mais en fait, je n'ai jamais été très à l'aise dans le genre sentimental, rom-com. C'est par ça que j'ai commencé. Mais je préfère de loin les thrillers. Et je ne sais pas d'où me vient ce côté sombre, mais ce sont les histoires qui m'attirent le plus. C'est comme ça. En tant que lectrice, je lis beaucoup de thrillers ou de romans qui ont une tragédie. Alors pourquoi j'aime ça ? J'aime bien regarder le côté sombre des choses.
Et la particularité de vos romans, Paula Hawkins, c'est que vous servez du polar pour raconter les femmes dans toute leur diversité. Vos héroïnes ont toutes quelque chose de fêlé. Et le point de départ de Celle qui brûle, c'est Laura, cette jeune femme que la vie n'a pas épargnée et qu'un trauma ancien a complètement désinhibée. Elle ne maîtrise ni son propos ni ses émotions. Comment est-ce qu'elle est née ?
Laura kind of came out of a story that I've been told by a friend of a friend.
Elle m'est venue à travers une histoire, un ami d'un ami qui m'avait parlé d'une jeune fille qui avait eu un accident. Elle est renversée alors qu'elle faisait du vélo, renversée par une voiture. Et de ce fait, elle a des problèmes divers. Et je me suis dit que c'est exactement le genre de personnage qui me fascine. Elle est complètement désinhibée, elle n'a pas de filtre. Elle dit tout ce qu'elle pense alors qu'elle ne devrait pas, bien sûr. Elle se met en colère et elle agit de manière souvent décalée, inappropriée. Tout ça la rend assez vulnérable. Pourtant, ce n'est pas comme ça qu'elle est vue de l'extérieur par les autres. Et j'aime bien tout l'imaginaire que ça ouvre pour le côté dramatique, ce côté problématique dans les relations. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se passe sous la surface, qu'on a envie de découvrir. Elle est problématique, caractérielle, mais elle est aussi vulnérable. Elle ressemble en fait au personnage de la fille du train.
Paula Hawkins, est-il exact que vous avez attaqué par le personnage de Laura en vous laissant mener sans très bien savoir où l'histoire allait se diriger ? Et est-ce que c'est une méthode à laquelle vous avez souvent recours ? Quels en sont les avantages ?
Well, I knew Laura. I kind of had a setting, but I did know where I wanted to end up.
Je connaissais mon premier personnage, Laura. J'avais le décor, mais je ne savais pas quel allait être le dénouement, où j'allais atterrir.
I know who the guilty person is.
Et c'est vrai que je procède toujours comme ça. Je sais qui est le coupable. Celui qui a ou celle qui a commis le meurtre. Mais j'aime bien laisser beaucoup de respiration pour que d'autres choses apparaissent. C'est plus intéressant et c'est plus intriguant aussi pour les lecteurs si je ne prévois pas tout. Parce que quand on prévoit tout avec un plan, l'écriture est plus mécanique. Je crois que c'est moins intéressant.
And you start to come up with loads of new ideas. So
parce que à mesure qu'on écrit, on commence à atteindre le cœur du récit. On commence à, et on accumule les indices. Mais j'aime bien ne pas savoir exactement où je vais.
Alors, tout en étant captivant comme un polar doit l'être, votre roman Paula Hawkins dresse aussi un portrait sociologique de femmes de conditions et d'âges différents. Est-ce que c'est aussi une manière de poser la question de la place qu'elles tiennent ou qu'il leur est laissé dans la société? Et est-ce que le polar est un bon support pour poser ce genre d'enjeu aussi?
I think so. I think murder mysteries,
oui,
know,
je crois exactement. Le polar, ça vous permet de faire une sorte d'enquête sur toutes sortes de problèmes. J'évoque la place, le statut des femmes dans la société. On peut aussi procéder ainsi pour parler des migrants, par exemple.
We're talking about kind of
il faut que les personnages soient acculés dans des conditions difficiles. J'aime bien décrire un milieu particulier pour en faire ressortir les problèmes sociologiques. Et je crois que du coup, c'est assez prenant pour le lecteur. Mais je ne m'assieds pas en me disant « Oh, je vais écrire sur ce problème dans la société ». Mais c'est vrai que quand on écrit un polar contemporain, eh bien, on aborde beaucoup des problèmes de la société.
Paula Hawkins, vos personnages dégagent souvent un sentiment de solitude, de distance. Vous avez vous-même été transplanté, si je puis dire, du Zimbabwe où vous êtes née, à Londres. Est-ce que vous vous sentez totalement anglaise?
No, I don't actually.
Eh bien non, je ne me sens pas totalement anglaise. Oui, vous l'avez dit, j'ai grandi au Zimbabwe et j'ai été transplantée à l'âge de 17 ans au Royaume-Uni. Alors ça a été un peu un choc culturel. J'ai dû quitter tous mes amis, me refaire de nouveaux amis à un âge où ce n'est pas si facile. L'adolescence, je me sentais un peu comme une outsider, une étrangère. Il m'a fallu longtemps pour me refaire de nouveaux amis.
Had to like make friends again. So I had a lot
et
of those experiences
je suis allée
of feeling
en France,
an outsider
and feeling maybe a bit
lonely and watching.
Et c'est vrai que ça s'accompagne de solitude. On est un peu spectateur de la vie des autres qui se déroule et on se sent à la marge, à l'extérieur. Oui, j'ai mis beaucoup de ça dans mes romans.
Tout comme dans La fille du train, celle qui brûle joue aussi sur une forme de mémoire embuée par l'alcool pour l'héroïne de votre roman précédent, par un accident pour celle qui nous intéresse aujourd'hui. Quand on vous lit, on a l'impression que les pièces manquantes à la résolution des intrigues sont liées à la manière dont les personnages écrivent ou réécrivent l'histoire. Est-ce que le fonctionnement de la mémoire, c'est aussi un de vos sujets ?
Yeah, I'm fascinated by memory and by
oui, ça me fascine, la question de la mémoire et le rôle qu'elle joue dans les histoires qu'on se raconte. Le récit de nos vies, de nos propres vies, dépend beaucoup de ce dont on se souvient. Et on a tendance à faire confiance complètement à nos souvenirs, alors que la plupart du temps, ce n'est pas exact à 100% ce dont on se rappelle. Et puis, à force de raconter les mêmes histoires, on en change la signification. Rachel a un problème de mémoire particulier, c'est dû à sa consommation d'alcool. Laura, c'est à cause d'un trauma crânien. Mais même au quotidien, je crois qu'on n'arrête pas de modifier légèrement l'histoire de nos vies et on recrée des souvenirs. Je trouve ça fascinant.
The people that we are.
Parce que ça nous change nous-mêmes, la personne qu'on est. Et puis quelquefois, on est mis au défi ou contredit par quelqu'un qui se rappelle la même histoire différemment. Et ça peut être très surprenant.
Paula Hawkins, outre le corps retrouvé sur le bateau, il y a un autre personnage masculin dans Celle qui brûle, Théo, qui se trouve être un romancier. Un personnage qui nous permet d'avoir accès à un roman dans le roman, une sorte d'inception littéraire, et une figure du romancier mâle assez détestable. Alors je ne vous demanderai pas s'il faut y voir un message, mais est-ce que vous vous amusez en construisant vos romans ?
I think I had a lot more fun with this book than I had with the ones before.
Je vous avoue que c'est le livre qui m'a le plus amusé à écrire. Il y avait un côté ludique. J'ai bien aimé composer ce personnage de Théo.
A great reader of crime novels, she was also quite fun to write. So I did. I think.
Et puis les autres personnages aussi, celle qui est pas Irène, qui adore les polars, ça m'a beaucoup plu de la construire aussi.
Mais je rebondis sur ce que disait Charline, Paula Hawkins, un seul personnage masculin, enfin vivant, hein, tout à fait détestable. Et le Théo, il paraît qu'en plus, enfin, on découvre que c'est un plagiaire. Doit-on en tirer des conséquences pour nous autres, vos lecteurs masculins?
No, not at all. I mean, the thing is,
non, pas du tout, rassurez-vous, Antoine.
A good person, I guess.
Je crois qu'au fond, il a de la bonté et j'avais de l'affection pour lui, malgré les choses horribles qu'il fait. Tous les personnages font quelque chose d'horrible à un moment. Alors il est un peu pédant, un peu pompeux, mais pour moi, il est racheté par l'amour immense qu'il a pour sa femme, sa famille. Il est très loyal. C'est vrai que généralement, j'écris davantage de personnages féminin. Je crée davantage de personnages féminins que d'hommes. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas terribles. Il faudra que je corrige ça à l'avenir, que je leur donne un peu plus de lustre à mes personnages masculins.
Vous êtes tout à fait pardonné, Paula. Je partage parfois votre point de vue.
Et Paula Hawkins, vos romans ne sont pas que des puzzles, on l'aura compris, mais pour vous, qu'est-ce qu'un bon mystère, un bon thriller ?
For me, well, any good novel, not just a good thriller,
bon, n'importe quel roman, pas seulement les thrillers, commence d'abord par un bon personnage solide qui vous attire, qu'on ait envie de continuer de regarder, auquel on croit. Mais pour un bon thriller, il faut une bonne intrigue qui surprenne le lecteur. Moi, j'aime pas quand il y a trop de rebondissements un peu tirés par les cheveux. Quand il y a un retournement de situation, il faut l'avoir mérité, il faut préparer le terrain. Et le lecteur qui est très attentif à ce moment-là peut deviner. C'est ça qui est satisfaisant, je pense, dans un bon thriller. Si les indices sont là, disséminés et accessibles pour un lecteur attentif.
Celle qui brûle, c'est signé Paula Hawkins, c'est édité chez Sonatine et c'est évidemment très chaudement, c'est le cas de le dire,
ah oui,
recommandé par Pop Pop Pop. Petit pop break dans cette émission, c'est l'heure des pop news.
Après Jukebox en 2008, The Covers Record en 2000, voici un nouvel album de reprise signé Cat Power. Et pour l'annoncer comme il se doit, Chan Marshall a dévoilé deux des titres qu'elle a revisités, A Pair of Brown Eyes, des Pogs ou encore le Bad Religion de Frank Ocean. Sera le titre de cet album qui viendra compléter la trilogie. Il comprendra aussi des reprises de Nick Cave, Billie Holiday ou encore Iggy Pop version Cat Power et ça sortira le 14 janvier.
Une première bande-annonce pour la série française de Disney+, baptisée Parallèle. L'histoire de quatre amis, Bilal, Roman, Samuel et Victor, dont les vies se retrouvent bouleversées lorsqu'un mystérieux événement les sépare et les propulse dans des dimensions parallèles.
Je peux dire quelque chose ? Il faut me croire. C'est comme si c'était évaporé.
Wow ! Les gars, vous êtes où ?
Et Parallèle est une série créée par Kok Dang Tran, qui avait notamment collaboré au Bureau des Légendes et à 10%, ce sera à streamer d'ici peu sur Disney.
Et on termine avec une curiosité qui nous a été signalée par un de nos formidables popopiens, merci Vincent. Un mash-up absurde, comme on les aime, c'est signé Rigolich et voici donc Rage Against the Yuki. Et ce Rage Against the Machine versus Richard Gottener par Rigolich est à retrouver sur le 5e volume de la compile La Machaillaise. Évidemment, on vous glisse le lien pour le trouver sur le compte Twitter 3615 Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
Oui, c'est moi.
Richard Gottener.
Non, le Yuki. Merci, Charline.
Pas le Yuki. C'est un chien, Antoine. Arrêtez.
Voilà le Yuki. Paula Hawkins, nous avons parlé de pop culture et de Kylie Minogue, mais votre pop culture ne se résume pas à Kylie. La preuve avec votre pop list. Que lisez-vous, Paula Hawkins? Que regardez-vous? Dites-nous tout. Le livre que vous nous conseillez, c'est « À quand les bonnes nouvelles ?»« When will there be good news ?» de Kate Atkinson. Charline, c'est amusant, c'est une question qu'on se pose tous les jours sans jamais trouver de réponse, n'est-ce pas?
Et là non plus, vous allez voir. Un écrivain, Howard Mason, vit avec sa femme et ses trois enfants à la campagne, alors qu'il est allé rejoindre sa maîtresse à Londres. Sa femme, le bébé et l'aîné de ses filles, ainsi que le chien, sont massacrés par un inconnu. Seule la petite Johanna, 6 ans, parvient à s'échapper du carnage. 30 ans plus tard, l'homme qui a été condamné pour ce crime sort de prison.
Alors le pitch est assez éloigné du titre. Pourquoi nous conseillez-vous ce livre, Paula Hawkins? Et avez-vous la réponse à la question « À quand les bonnes nouvelles ?»
I certainly don't have the answer to the question. But for me, this is like close to a perfect.
Oui, ce n'est pas la réponse à la question, mais pour moi, c'est le thriller parfait. Kate Atkinson, c'est une romancière formidable qui s'essaye d'ailleurs à plusieurs genres. Alors, ça traite des grands thèmes, la famille, le destin, l'amour maternel, la violence à l'encontre des femmes. Elle est très habile dans la construction de ces intrigues qui sont comme des puzzles. Et les personnages sont vraiment merveilleux, mémorables, ils vous hantent longtemps après. C'est un livre triste, mais drôle parfois, qui contient des surprises incroyables. Oui, c'est tout ce qu'on aime dans un roman.
Merci Paula, le livre recommandé par vous-même, c'est donc « À quand les bonnes nouvelles » de Kate Atkinson. Paula Hawkins, le film que vous nous conseillez, c'est « Das Leben der Anderen » ou « La vie des autres » en VF, un film allemand sorti en 2006, écrit et réalisé par Florian Henkel, Van der Zersmarken. Charline, c'est amusant, là aussi, que Paula choisisse un film qui est l'un de ses thèmes favoris, « La vie des autres ».
En 1984, à Berlin-Est, Gerd Wissler, capitaine de la Stasi, se voit confier la tâche de surveiller le dramaturge Georges Dreymann. Wissler comprend vite qu'il s'agit d'une intrigue orchestrée par le ministre est-allemand de la culture, Bruno Hempf, qui impose des rapports à la compagne de Dreymann. Le ministre souhaite ainsi compromettre son rival pour l'éliminer.
Warum tust du's denn? Weil sie dich genauso zerstören können.
Sie kennen mich nicht, aber ich kenne sie.
Das wird sie veröffentlichen?
Im Westen, mit deiner Hilfe.
Warum dieser Film? Pardon, pourquoi ce film, Paula Hawkins?
Oh, I love this film. Stories that are quite complex.
Déjà, j'aime les histoires qui ont un scénario, une intrigue complexe du point de vue moral. Et là, il y a ces personnages qui trempent dans des intrigues bizarres. Le héros est très beau, il a une copine fantastique, il est loyal envers le régime, mais certains de ses amis sont sur une liste noire et sont en danger. Et la petite amie a été forcée à coucher avec un sordide homme politique. Et il y a ce personnage loyal toute sa vie et qui commence à épier ce couple. Il les voit ensemble et il n'arrive pas à mettre de côté son humanité parce que c'est un mec bien et il se met à les aider au lieu de les trahir. C'est une magnifique tragédie.
La vie des autres, le film allemand de 2006 recommandé par Paula Hawkins. Bien, terminons cette pop-list avec la série que vous choisissez, Paula. Et là, Cocorico ! Oui, car la série que vous avez choisie, c'est notre Bureau des légendes. Une série créée par Éric Rochant. Charline, rappelle des faits.
Au sein de la DGSE se trouve un département appelé le Bureau des légendes qui forme et dirige à distance les agents dits clandestins en immersion dans des pays étrangers. Ils opèrent sous légende, c'est-à-dire sous une identité fabriquée de toutes pièces. Ils vivent de longues années dans une dissimulation permanente. C'est le cas de Guillaume de Bailly, dit Paul Lefebvre, dit Malotru.
Une légende n'est pas éternelle. Une légende n'est pas réelle. Quand sa mission est terminée, la légende doit disparaître.
Paula Hawkins, pourquoi choisir une série française ? Vous n'allez pas me dire que vous n'avez rien de bien en Angleterre quand même.
Oh, I love this. The Bureau. I watched all five seasons.
Ah, j'ai regardé cinq saisons d'affilée du Bureau des légendes pendant le premier confinement. J'ai trouvé ça fantastique. C'est une de mes séries préférées avec The Wire. C'est tellement fin, intelligent et ça m'apprenait des choses sur la politique, la technologie, le comportement humain. Il y a aussi l'épisode avec les femmes kurdes qui se battaient en Syrie. Je ne savais pas d'ailleurs que c'était vrai. On nous explique aussi comment fonctionnent les hackers. C'est vraiment sophistiqué, très malin, très intelligent. Et ce que j'ai adoré, c'est que ça ne rend pas les espions glamour. Ça me rappelle les bouquins de John le Carré avec le personnage de Smiley. Tout le monde trempe dans des choses louches. Tout est un peu dans la boueux. Enfin, c'est pas comme James Bond. Et puis, j'ai adoré la distribution. Et d'ailleurs, la fin m'a vraiment contrarié.
Paula Hawkins, c'est Celle qui brûle. Le roman va-t-il faire l'objet d'une adaptation, ciné, série?
Well, I would love to see it adapted. I don't
have. J'aimerais beaucoup voir mon livre, adapté à l'écran. Il n'y a pas encore d'option sûre, mais j'espère que ça se fera.
Et est-ce que Kate Winslet pourra jouer Miriam?
That's outrageous.
ce serait génial.
I don't do fantasy casting. It's a dangerous game.
Bon, mais je m'amuse pas à des distributions de rêves comme ça. C'est un jeu dangereux. On risque d'être déçu.
Bon, en attendant l'adaptation au cinéma, précipitez-vous sur ce livre brûlant. Merci, Paula Hawkins. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.
Merci à vous.
So much.
Et je rappelle que votre dernier roman, Celle qui brûle, est édité chez Sonatine et c'est évidemment brûlamment recommandé par Pop Pop Pop. Merci une fois de plus, Paula. Dans la suite de Pop Pop Pop, rendez-vous avec Carmen Cassavitz et Théo Fernandez, les comédiens de la saison 2 de Stalk. Ce sera juste après Grumpy Old Man, c'est un morceau de la jeune chanteuse californienne Remi Wolf.
Hey, it's okay. Look over the fence. There's things over there that I know you don't know about yet. Listen. I'm so defensive. There are things over there that I do not know about. Yeah. I'm so defensive. I get caught up in the modern day. The fishing net that's pulling at my feet. I'm so defensive. I got bongos thumping in my chest. And something tells me they don't be for me.
Sweater, got that long hair, long beard, turtleneck sweater.
Grumpy Old Man, c'est marrant parce que c'est le surnom de mon ami Laurent Chalumeau.
Ouais.
Chalumeau, alors qu'on vient de recevoir Celle qui brûle.
Vous allez dire qu'il y a une thématique.
Non. Oui, c'était le son californien de Rémi Wolf. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Oui, c'est un son de modem 56K pour parler de la saison 2 de la série de France TV Slash. Avec nous pour en parler, Carmen Kassovitz et Théo Fernandez.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors cette série, c'est Stalk. Attendez, Siri, tu peux venir me voir une minute, s'il te plaît? Ouais, allez, mène-toi. Allez, ça veut dire quoi, Stalk?
On dit pas Stalk, on dit Stalk.
Ah.
Et ça veut dire fouiller sur les réseaux pour obtenir des informations à propos de quelqu'un.
Ah, comme moi par exemple avec mes recherches sur Odette, ma voisine trouvillaise nonagénaire, ça veut dire que je suis un stalker?
Non, ça veut dire que vous êtes un déviant gérontophile.
merci Siri. Charline, la saison 2, dégage-toi, la saison 2 de Stalk est disponible sur France TV Slash. Qui dit saison 2, dit saison 1. Pouvez-vous nous pitcher Stalk? Et en disant pitcher Stalk, je sais que je ne me fais pas que des amis à l'Académie française.
On va avoir des mails. Théo, vous êtes Lucas, nom de code luxe, surdoué du code, en école d'ingénieur. Et en saison 1, vous mettiez tous vos talents au service d'une idée espionnée pour mieux vous venger des petites ordures vous ayant humilié dans un week-end d'intégration. Mais à trop stalker, on finit par s'attacher, surtout quand celle qu'on observe est Alma, vous, Carmen. Et puis on ne stalke pas en toute impunité. Et en saison 2, Alma est partie étudier au Canada. Lux, lui, est toujours sur le campus, soi-disant désintoxiqué du stalking. Mais voilà, c'est lui qui se retrouve stalké par un justicier qui semble lui en vouloir personnellement. Qui est-il? Pourquoi est-ce qu'il lui en veut? Et avec en toile de fond une autre question, si nous avions tous les moyens de stalker, est-ce que nous nous laisserions tenter? Je vous pose la question à tous les deux.
Oui, bah on le fait déjà un peu. Hein.
Bah oui, carrément, on le fait déjà.
Dans une moindre mesure, mais aller regarder le profil de quelqu'un sur Instagram et essayer de trouver des choses...
Carmen, vous faites ça couramment, vous aussi?
Est-ce que je fais ça couramment? Je vais passer pour une psychopathe. Non, mais je pense que ça fait partie de notre génération. Ouais. Je pense que c'est vraiment... nous, les jeunes, avec Instagram, on a vraiment... pour nous, c'est normal d'aller stalker et puis regarder un peu le profil des gens. Donc oui, je le fais, évidemment.
Au stalk, c'est cette recherche d'informations, mais c'est aussi le verbe harceler, comme le rappelle Simon Buisson, le créateur, auteur et réalisateur de la série. La série se situe donc entre ces deux notions?
Oui, parce que bon, c'est la conséquence du stalking, quoi. C'est-à-dire que quand ça sort de notre petite chambre devant l'écran et qu'effectivement ça prend des proportions réelles, bah là pour le coup c'est du harcèlement fort et instantané, quoi. Parce qu'imaginez, on vous dit des trucs privés sur vous très rapidement, ça fait peur.
Stalk saison 2, ça sonne comme ça.
Vous êtes tous des stalkers, vous êtes tous des voyeurs. C'est plus fort que vous. Quand vous stalkez, vous vous sentez surpuissant. Et juste une chose que vous oubliez, vous aussi. Vous êtes stalké.
1. Trouver la faille. 2. Repérer le vecteur initial.
T'en as mis du temps.
Comment tu t'appelles?
Charlie.
3. Remonter jusqu'au hacker.
Toi et moi, on a tout perdu. C'est le moment de passer à l'action.
Moi, Bonnie. Toi, Clyde.
Carmen Kassovitz, vous avez 19 ans. Théo Fernandez, vous en avez 23. Et je vous imagine plus actif que moi sur les réseaux. Est-ce que, par exemple, vous m'avez stalké avant de venir ici? Regardez-moi dans les yeux.
Mais non, on ne vous stalke pas. On sait déjà qui vous êtes, évidemment.
Ah, voilà. Hein? C'est ce que j'allais dire.
Savez-vous exactement vraiment qui je suis?
Ah, ça, on ne sait jamais, mais...
Savez-vous
un déviant gérontophile.
Un déviant gérontophile.
Moi, j'ai 2-3 vidéos que je peux dévoiler. Enfin bon, on en parlera pas.
Ce que je veux dire, c'est que ça fait partie d'une démarche presque...
Oui, c'est même presque du respect, quoi. Savoir à qui on va s'adresser. Mais moi, très sincèrement, moi, je savais... qui vous êtes. Oui, vous avez dans quelques trucs.
Vous avez un petit dossier.
Et à l'inverse, est-ce que vous checkez ce que les réseaux disent de vous?
Oula, oui.
Ah, toi aussi?
Ah ouais.
Ah, je pensais pas que toi... Ah ouais.
Ah si, mais plus j'avance dans mon tout début de carrière, plus je stresse, plus je regarde. Et en fait, c'est très mauvais.
Ah ouais, faut pas regarder.
Faut pas regarder.
Parce que ça fait aussi partie des préoccupations des personnages dans Stalk.
Ouais.
De savoir...
Ouais, bien sûr, ce qu'on dit de nous, ce qu'on pense de nous, et effectivement...
Mais vous avez raison de parler de début, parce que la première saison, c'était vos débuts dans le métier.
Exact, c'est mon premier. J'avais tourné un court-métrage avant, et puis là, c'était mon premier vrai tournage. ça m'a bien formée. Et c'était très formateur et je suis très reconnaissante d'avoir pu faire partie de ce projet.
Vous le disiez, Carmen, c'est votre premier rôle. Vous avez tous les deux dû jouer avec une difficulté particulière. C'est-à-dire que comme ça se joue souvent par écran interposé, vous êtes souvent retrouvés sans partenaire de jeu pour jouer.
Oui, bon, on a eu des, notamment dans la saison 1, la scène de fin, on a dû parler. Enfin, dans Stalk, déjà, on se retrouve déjà par. Et puis surtout, c'est que de l'incrustation. Donc en fait, à chaque fois qu'on joue, surtout pour Théo, c'est vraiment un écran gris.
En fait, vous ne vous connaissez pas.
On ne se connaît pas du tout, d'ailleurs, enchanté Théo.
Théo, Carmen.
Très impressionné de te voir en vrai.
Pareil.
Est-ce qu'on va parler de toi pendant le
Non, mais c'est compliqué. Et puis en plus, Stalk, on utilise des moyens de réalisation quand même assez. C'est beaucoup au stead. Donc en fait, on a le stead collé à la tronche 99% du temps. Et puis on doit faire des Stalk. En fait, c'est une toute autre manière de travailler. Et c'est assez génial.
Le stead, c'est cette caméra accrochée au caméraman qui est en mouvement. Permanent. Okay. Ou pas d'ailleurs.
Oui.
Cette série sensibilise contre le harcèlement. Est-ce que vous savez si elle est diffusée dans les collèges? Ça serait une bonne nouvelle, ça.
Alors, ouais. Ça, je sais pas du tout. Tu sais?
Je pense pas, parce qu'en général, les campagnes de sensibilisation dans les collèges, c'est pas 3 heures. Souvent, les élèves, après, ils en peuvent plus. Et puis, bon, je veux dire, c'est quand même interdit au moins, 12 ans, un truc comme
ça.
Donc
ouais, c'est un peu, il y a des scènes
mais un peu. Franchement, ce serait super bien, parce que pour le coup, ouais, là, on a le temps, ça rentre rentrer en matière et tout. Enfin, moi, en tout cas, à la vision de la saison 1, je me suis vraiment dit que ce serait une super campagne anti-harcèlement.
Ouais. Mais par exemple, là, profitant du micro que vous avez à votre disposition, est-ce que vous pourriez encourager les professeurs en voiture qui nous écoutent en rentrant de leur cours? Il faut vraiment montrer cette série.
Je pense qu'il faut vraiment montrer cette série.
Dites-leur, Carmen.
Je vous le dis, tous les professeurs que j'aime de tout mon cœur, montrez cette série à vos élèves. Je pense que ça sensibilise, puis honnêtement, c'est pas chiant, quoi. Et ça, c'est quand même important.
Ouais, au moins au lycée.
Ouais. Au lycée, peut-être. Au collège, c'est un peu tôt pour certaines personnes. Mais au lycée, oui, ça peut vraiment amener des choses très intéressantes.
Puis il y a ce truc du harcelé qui, au final, reprend le pouvoir et à un moment est le perso le plus classe de la série, quoi. Et c'est vrai que dans les campagnes de sensibilisation, on laisse le harcelé comme une victime. Et dans la vision d'un collégien, une victime, c'est un faible et c'est c'est une connotation péjorative. Donc ce serait vraiment intéressant. Ouais.
Stalk saison 2, c'est disponible sur France TV/. Et c'est recommandé, très recommandé par Pop. Carmen Kassovitz, je sais que vous aimez beaucoup comme nous Tame Impala. Alors pour terminer cette émission, je vous propose d'écouter Is It True? C'est un extrait du dernier album The Slow Rush.
Génial, merci.
Is it true, Tame Impala, dans Pop Pop Pop. C'est un morceau qui a fait plaisir à Carmen Kassovitz, venue nous présenter la saison 2 de Stalk en compagnie de Théo Fernandez. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Stalk saison 2, c'est sur France TV/, et c'est une série Pop Pop Pop. Merci Charline.
Merci à vous.
À demain, et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Eve Dair qui a assuré la traduction de Paula Hawkins, ainsi qu'à Nicolas Delmas qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans l'émission, Asia Argento vient nous présenter son autobiographie. Attention, c'est chaud. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.